appliquer leurs politiques respectives. Et c'est la fin de ce bulletin.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition de l'Amérique et vous, Eric Manelakiza en votre compagnie, Lionel Lunanilagahima assure la mise en onde. Bienvenue à vous tous et merci d'écouter VOA Afrique. Ce soir, nous parlons de l'inscription du génocide dans les pratiques discursives africaines. Dans un instant, nous retrouvons Hervé Tchonkam, professeur à Southern Methodist University au Texas. Il s'intéresse sur le Rwanda et l'inscription du génocide dans les études africaines. Le docteur Anjan Sundaram, auteur de Bad News sur la situation des journalistes au Rwanda. Et Jean-Pierre Karegeye, professeur à Dickinson College en Pennsylvanie. Il a publié et co-dirigé des ouvrages, notamment « Récits du génocide ». Encore une fois, merci d'être avec nous.
Hervé, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le Maghreb, les banlieues en France et sur l'Afrique subsaharienne. Vous êtes américain d'origine camerounaise. Vous enseignez aussi un cours sur le génocide au Rwanda. Voudriez-vous nous dire votre intérêt sur le Rwanda et l'inscription de la postcolonie dans vos propres recherches?
Bien sûr, oui. Je crois qu'en fait, et d'ailleurs, puisqu'on y est, il est très étonnant que le génocide rwandais, le génocide des Tutsis au Rwanda, 94, soit plus enseigné ici que sur le continent africain. Et ça, je le dis parce que j'ai rencontré plusieurs étudiants, même des doctorants dans l'Afrique, qui n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé au Rwanda au-delà de le discours qu'on connaît, les Africains qui se découpaient entre eux. Une fois de plus, et vider de telles histoires de leur substance coloniale, de leur substance politique, c'est une fois de plus contribuer à remettre en jeu cette affaire, cette histoire, ou alors plutôt cette image d'une Afrique barbare qui est, et d'ailleurs, pendant qu'on y est, Eric, je voudrais bien qu'on m'explique c'est quoi les ethnicités. D'où est-ce que, qui s'est jamais posé la question de savoir d'où viennent les ethnies? Parce qu'on parle de guerre ethnique, de guerre tribale. D'où viennent les ethnicités? D'où viennent les tribus? Et pourquoi n'y a-t-il de tribus qu'en Afrique, par exemple? Pourquoi quand les Californiens refusent de s'associer aux New Yorkais, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de tribus? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'ethnies? Donc c'est autant de questions qui m'amènent finalement à dire que le Rwanda, et je réponds très simplement à la question, le Rwanda est central pour moi, parce qu'en fait, ce qui s'est joué au Rwanda en 1994 devrait appeler toute l'Afrique à se repenser. Et à se repenser en tant, non pas en tant qu'une, une seule, mais à se repenser en tant que sa place dans le devenir de ce monde. On a vu au Rwanda le silence, non seulement, alors, tout le monde sait, on parle du silence de la communauté internationale, mais moi j'ai été davantage frappé par le silence même de l'Afrique pendant que ces choses se passaient au Rwanda. Et je pense que c'est une expérience tragique, mais une expérience tragique à partir de laquelle l'Afrique devrait pouvoir se repenser d'abord comme elle-même, avant d'engager ces nombreuses relations avec le monde extérieur au continent africain.
Ah Jean, vous avez quelque chose à dire sur le génocide au Rwanda?
Bon, je peux réagir un peu.
Dans la perspective post-coloniale, bien sûr.
Oui, bon, je n'ai pas beaucoup à dire sur le génocide au Rwanda parce que j'ai pas été au Rwanda à ce moment. Alors, journalistiquement, je penche plutôt sur le travail des autres qui ont été là, qui ont été témoins, qui ont été journalistes, etc. Bon, mon livre, je peux parler un peu de mon livre sur le Rwanda. J'ai passé comme 5 ans au Rwanda, j'ai enseigné un groupe de journalistes là-bas, une douzaine, une quatorzaine de journalistes, qui étaient, comme on parlait d'ethnie, ils étaient bien génocide Tutsi. Tous les journalistes étaient dans la classe que j'ai enseignée étaient des journalistes, pour moi, de premier ordre. C'était des journalistes qui m'ont beaucoup appris, justement, sur le journalisme. Ils avaient un esprit critique sur leur gouvernement, sur le gouvernement rwandais, du Paul Kagame. Malheureusement, ils ont tous subi des répressions extrêmes. Il y a certains qui ont été tués, il y a certains qui ont dû fuir le Rwanda en peur pour leur vie. Il y a d'autres qui ont été emprisonnés, arrêtés, abusés en prison, une forme de torture en prison, parce que pour ce qu'ils ont dit, pour les critiques qu'ils ont fait en tant que journaliste, du président principalement, du président Kagame. Et moi je trouve que justement, quand on parle du post-colonialisme, je trouve que dans les narratives internationales sur le Rwanda, on a très peu des perspectives des vrais journalistes rwandais qui font le travail de journalisme correctement, parce qu'ils ont été silencés. Comme mes étudiants, tous mes étudiants ont été silencés, et ça a coïncidé un peu avec la destruction de la presse libre au Rwanda. Du coup, ce qui arrive, c'est une situation où le narratif, la propagande du gouvernement se transmet à l'international, et c'est je dirais que le président Paul Kagame du Rwanda a très très bien joué sur la structure coloniale de la nouvelle internationale. Parce qu'il sait qu'en réprimant le journalisme local, il sait que c'est dans ce vide, c'est sa propagande qui va bien se diffuser. Il a très bien réussi, en fait. Si vous regardez la nouvelle sur le Rwanda sur Google News ou quelque chose comme ça, c'est quasiment entièrement positif. Pourtant, il y a eu une répression énorme. Mais pour avoir ces informations, ou pour avoir les informations que mes collègues journalistes rwandais voulaient rapporter sur les abus de pouvoir au Rwanda, c'est très 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 difficile à voir. Et ça, c'est issu d'une situation coloniale et postcoloniale.
J'aimerais quand même réagir. Eric.
Oui, Jean-Pierre.
Oui. Bon, parce qu'évidemment, la question était posée sur le rapport au génocide, et je crois que Hervé, parlant lui-même, n'était pas au Rwanda en 1994, mais il peut enseigner et parler de génocide, parce que pour nous, pour les Rwandais ou les Africains, et nous considérons que cet événement est très important et c'est un tournant dans nos réflexions et postcoloniales, comme beaucoup d'Africains et d'ailleurs ont pu le dire. Mais parce qu'Anjane a voulu parler de son ouvrage, et je trouve assez dommage, parce que s'il veut mettre ça même avec les critiques qu'il formule, mettre ça en perspective avec la pensée postcoloniale d'abord, donc le réceptacle, si vous voulez, de notre réflexion, qui nous accueille, est-ce que nous parlons à partir d'où, parce que lui-même même au début de la vie, se trouve au Rwanda, et c'est grâce à une organisation non gouvernementale, c'est-à-dire aussi financée par l'Occident. Et donc, il est lui-même dans ce regard quand il arrive au Rwanda. Et donc, comment est-ce qu'il a pris ses distances par rapport à ce réceptacle? Je ne sais pas. Mais parce qu'il parlait de son livre, je crois qu'il devrait aussi reconnaître même sa lecture qui est extrêmement biaisée dans son ouvrage. Parce que quand vous parlez de ces journalistes, honnêtement, parce que quand vous parlez de post-coloniaux, que vous dites, voilà, on ne doit pas voir seulement l'image négative, ça signifie en même temps une certaine rigueur, ça signifie aussi une certaine objectivité, bien que c'est à partir de votre perspective comme narrateur, mais objectivité, parce que là-dedans, essayez quand même de le reconnaître, les journalistes dont vous parlez, et vous parlez même des journalistes morts, mais ces journalistes sont vivants, et vous le savez d'ailleurs. Vous parlez des gens qui sont morts, mais c'est des personnes mortes, mais qui sont vivantes. Et vous partez, donc vous avez un groupe de quelques... Non, non, je continue, on ne vous a pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Donc vous parlez... Non, laissez-moi finir, on ne vous a pas interrompu.
Un jour, je vais vous donner
Il va vous donner, oui, c'est ça, oui. Donc un petit groupe, des gens vous dites, voilà, ils sont persécutés... parce que j'avais suivi quand même le débat et les réactions. Et ces mêmes personnes qui vous dites, voilà, qui ont été persécutées, ont pu écrire, d'ailleurs pour dire, voilà, nous ne lui avons pas dit ceci, c'est pareil, etc. Et quand vous parlez même de l'ouverture, essayez de suivre, par exemple, ce qui se passe dans les social media, par exemple au Rwanda, et comment les gens s'expriment, donc, dans leur position, etc., comme journalistes qui ont des points de vue différents, etc. Moi, je crois qu'on peut parler d'autre chose, mais si vous voulez, on peut aussi débattre de votre
votre ouvrage ou qui est extrêmement biaisé. Et surtout, même ce que vous prenez comme l'échantillon que vous avez. Surtout, le cas, par exemple, des mensonges. Vous dites que vous étiez la journaliste. Et quand j'ai lu, par exemple, certains textes ou même des étudiants, vous n'étiez pas là comme formateur. Vous le savez très bien. Vous aviez accompagné votre épouse. Donc, vous étiez là et c'est votre épouse qui avait ce contrat. Vous étiez là. Et vous avez eu quelques séances. Et puis, vous dites que vous étiez au Rwanda pour former des journalistes. Donc là, quand même, je crois qu'il faut être honnête. Ça pose quand même problème, je crois, n'est-ce pas? L'objectivité commence par l'honnêteté aussi, n'est-ce pas? C'est assez quand même dommage.
Vincent,
je crois que Jean-Pierre, en fait, j'ai eu, bien sûr, quand je critique le gouvernement rwandais dans mon livre, j'ai passé par beaucoup de critiques, justement, organisées par le gouvernement rwandais et aussi par d'autres personnes. Je savais bien ça en écrit dans ce livre. Mais c'est drôle parce que même le gouvernement rwandais et même les sources que j'ai connues là-bas, personne n'a trouvé une erreur factuelle comme ils ont passé. Il y avait comme. J'ai mis à la fin de mon livre une liste d'à peu près 61 journalistes rwandais qui ont été persécutés, soit tués, assassinés, emprisonnés ou qui ont été forcés à fuir le pays après qu'ils ont critiqué le gouvernement rwandais ou le président Paul Kagame. En fait, même les agents du gouvernement rwandais, des ministres et tout, n'ont pas trouvé un seul erreur dans cette liste. Je trouve ça intéressant que Jean-Pierre dit quelques accusations qui sont fausses, je crois. Et parce que mon livre a passé par le feu, si tu veux, en termes de rigueur, de critique. Ça a passé, comme il n'y a pas d'erreur factuelle que personne n'a montré. Et d'autres questions, c'est comme, je crois que c'est un peu étonnant, je crois que là, malheureusement, j'en suis en face d'une critique ou un discours objectif de sa part, un peu impersonnel, parce qu'il veut me dire pourquoi je suis venu au Rwanda. Est-ce que c'était pour cette raison ou est-ce que c'était pour l'autre? Bien, il ne peut pas savoir. Bon, on se respecte. Je trouve que pourquoi je suis venu au Rwanda, il peut y avoir plusieurs raisons. Pourquoi on fait une action, il peut y avoir plusieurs raisons. Moi, c'est moi qui sais, et malheureusement, Jean-Pierre prétend à savoir ce que je pense. Et pourquoi vraiment je suis venu au Rwanda, autant j'ai donné une autre raison. Et je trouve ça un peu dommage, ça montre un peu sa manque d'objectivité, un peu que son discours et son narratif passent. Je suis journaliste, je suis pour le livre d'expression, je suis pour le débat, mais je trouve un peu dommage quand ça passe des idées, un débat des idées, à un débat personnel, à comme lui me dit qu'est-ce que j'ai pensé ou pourquoi j'ai fait une décision ou l'autre, ou bien lui me dit juste parce que j'ai eu un boulot qui a été financé par les Occidentaux, quelles sont mes idées. Pourtant, quasiment tous les académiques, comme lui-même, j'imagine, et Hervé aussi, reçoit de l'argent occidental. Et pourtant, moi, je ne questionne pas vos pensées, parce que c'est vous, je vous laisse la parole à vous exprimer sur votre pensée. Et je ne lis pas votre pensée à votre financement ou dans le cadre institutionnel dans lequel vous travaillez.
S'il vous plaît, Hervé.
Là, très bien. Oui, merci, oui. Tout ce que je veux dire est un peu embêté parce que je me sens comme obligé de me positionner. Mais en gens, la critique qui est faite ici en gens, c'est pas une critique personnelle. En tout cas, c'est pas ce que j'ai cru percevoir dans l'affirmation de Jean-Pierre. Ce que Jean-Pierre dit, et je reviens à la question de base d'Éric, est central aussi pour la pensée postcoloniale. Le point, c'est-à-dire le point de départ, quel est l'angle de départ, d'où est-ce qu'on vient? Éric, comme Jean l'a dit, effectivement, et il est indéniable, c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, qu'aucune corporation, même pas nous, les professeurs, ne sommes à l'abri de positionnement idéologique et de rigidité intellectuelle. Ça arrive. Donc, le point de Jean-Pierre ici, je comprends bien, c'est ça que je voudrais ajouter, le point de Jean-Pierre ici, c'est qu'au fond, en principe, en fonction de qui, on va dire, finance, ou en tout cas qui commande une étude, ce n'est pas toujours nécessairement le cas, mais il se pourrait que celui qui commande l'étude prédispose la nature de l'étude. On l'a vu. Et Dieu sait qu'il existe des tas d'ouvrages qui ne sont pas, on va dire, toujours objectifs. simplement parce qu'ils sont écrits dans une perspective, et cette perspective-là, notre rôle ici n'est pas de mettre les auteurs en procès, mais de dire en tant que théoricien, ou en tout cas prosélyte de théorie postcoloniale, qu'il faudrait repenser et remettre en question cette perspective-là, qu'elle ne soit pas donnée pour acquise pour vrai, parce qu'en en plus, on peut le dire, Eric, les études de littérature orale, voilà, on va faire ça simple. J'interroge 10 journalistes qui vont me donner une version. J'interroge 10 autres, ils vont me donner une autre version. C'est ça le problème aussi avec tout ce qui est ethnologique, ethnographique. C'est comment est-ce qu'on choisit son pool? Qu'est-ce que ce pool-là croit qu'on attend? Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi. Et finalement, qu'est-ce que devient la pertinence du rendu qu'on a après ces analyses? Et est-ce qu'en regardant ailleurs, on aurait exactement les mêmes conclusions? Je crois que ce sont simplement les questions méthodologiques que j'en suis en train de soulever. Il ne s'agit pas de s'attaquer à un genre personnellement. Non, non. Il s'agit plutôt de regarder du point de vue de la validité d'une étude et d'une enquête pour comprendre que autant elle est produite, autant il y a d'autres possibles que les enquêtes n'incluent pas toujours.
Je suis d'accord avec Harry, il y a une multiplicité de perspectives et toutes les perspectives sont bienvenues. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a une perspective qui est le plus important ou le meilleur. Et je crois que c'est à partir de ce débat qu'on arrive à une connaissance, à une, disons, vérité plus profonde.
Oui, c'est ça. Donc, merci beaucoup. J'aimerais revenir dans c'est que une critique, c'est-à-dire une critique, par exemple, un article, un livre, etc. C'est vrai. Vous avez plusieurs personnes qui lisent le texte avant qu'on accepte qu'il soit publié. Là, c'est un fait. Mais même un article, vous avez 3 ou 4 personnes qui lisent anonymes et qui disent ça peut être publié. Le même texte sera soumis à des critiques après sa publication. Tout simplement, la publication ne fait pas d'un texte, disons, la critique qui a été faite, elle n'est pas définitive ou absolue. C'est-à-dire, il y aura toujours des critiques. Et quand il y aura une deuxième, troisième édition du même ouvrage ou reprise de l'article, etc., on tiendra compte de ces critiques. Donc, là, c'est normal pour ce qui est critique. 2, il ne s'agit pas d'une attaque personnelle, loin de là, mais je parle du livre. Donc, au moment où le narrateur dit, voilà, j'étais au Rwanda pour ceci, pour cela, j'ai formé cela, et cela peut passer à l'épreuve des critiques, c'est-à-dire d'autres sources, surtout les articles publiés après l'ouvrage, etc., et qui me permettent de dire, la personne qui parle, au fond, n'était pas là pour la formation, mais accompagnée, etc. Ce sont des textes, et ça, c'est pas important, mais c'est simplement par rapport à la position. Donc, c'est à partir du texte que je réagis à partir du texte. Et deuxième élément, et ça, c'est pas important, je voudrais pas m'attarder beaucoup sur les faits. Donc, deuxième élément, quand on parle, par exemple, des journalistes, je pose une question. Vous avez pas, par exemple, le cas de Sambanda, Chaka Kanuma, etc., qui sont devenus, etc. Voilà, leur réalité, c'est ce qui est décrit dans le livre. Mais c'est pas ça ce qui vraiment m'intéresse. Ce qui m'intéresse en tant que critique littéraire, en tant qu'enseignant ou chercheur, dans un tel ouvrage, et je redemande, etc., parce que nous parlons de la postcolonie, quelle est la partie, quelle est la contribution de votre pensée? Je poserai la même question à Hervé, je ferai même l'autocritique. Je la poserai à moi-même, dans ma propre démarche. Et c'est la question que je vous pose aussi. Comment est-ce que vous vous situez par rapport au retour du colonial, si vous voulez? Et ce danger existe chez Hervé, existe chez moi, existe aussi chez vous comme journaliste. Et quand je le constate, je me dis, bon, c'est un danger qui existe. Donc, on a parlé tout à l'heure donc de financement, même dans la façon de raconter vos textes, etc. Si vous ressortez comme héros, si vous ressortez comme le héros, comme le sauveur, n'est-ce pas, le blanc sauveur de l'Afrique, etc., à travers votre image, de façon consciente ou inconsciente, il faut se poser cette question.
Je trouve ça très intéressant, en fait, parce que Hervé a évoqué le fait que des gens commandent des études. En fait, il n'y a personne qui commande des études ou des écrits de moi, indépendant, avec ma formation, avec mes idées. Il n'y a personne, quand j'écris un livre, il n'y a aucune garantie que quelqu'un va le publier ou rien. Je ne suis pas financé par quelqu'un. J'écris ce que je veux. Bien sûr, je suis d'accord qu'on doit tous se faire des autocritiques de nos préjugés, d'où on vient. L'indépendance est très importante à moi et c'est comme ça que j'apprends en écrivant sur moi-même. J'apprends aussi sur les perspectives avec lesquelles j'ai grandi, les perspectives auxquelles je suis aveugle à cause de ma formation, tout ça. C'est le processus, c'est pourquoi je fais mon métier. Oui, je trouve que c'est très important. Aussi, je trouve drôle que Jean-Pierre évoque le blanc sauveur à propos de moi. Justement, il le sait très bien. Je suis un peu flatté qu'il connaît mes livres aussi d'aussi près. Il sait très bien que je suis indien, j'ai la peau grande. Je ne sais pas comment il se sentirait si je lui traitais d'un blanc, avec les connotations que ça a dans une discours colonial et postcolonial. Et justement, moi je dirais que en vous écoutant, oui, on a des différences de perspective, mais je dirais que on a beaucoup en commun. Je suis indien, j'ai la peau de couleur, si vous voulez. J'ai grandi en connaissant très bien le racisme personnel et institutionnel, comme vous, et j'exprime ça aussi dans mes écrits, dans mes narratifs, dans mes discours, comme vous, j'imagine.
Si vous permettez, Eric, juste un petit rien. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de choses en commun. C'est pourquoi qu'il y a même cette idée des globosseurs, etc. Et quand je parlais du blanc sauveur, ça peut exister. Que vous soyez indien, ça peut exister chez vous, ça peut exister chez moi, ça peut exister chez Hervé. C'est-à-dire, c'est une façon, c'est une posture. C'est loin, ça ne demande pas qu'on soit physiquement l'homme blanc. Et c'est pourquoi j'ai parlé de façon consciente ou inconsciente. Donc cela s'adresse à vous, s'adresse à nous tous. Donc là, soyons un peu clair. Et aussi, pour ce qui est par exemple d'être financé par ceci ou quoi, je crois qu'une institution n'a pas besoin d'être une présence physique. C'est-à-dire, si moi j'écris un texte, les idées qui circulent dans mon texte répondent à un certain retour au colonial, etc. Donc je m'inscris un peu dans cette idée. Et de façon inconsciente, ça peut aussi m'arriver. Tout à l'heure, vous disiez, disons au début, que vous aimeriez écrire sur Trump, vous aimeriez écrire sur les États-Unis, mais vous êtes sûr que ça ne sera pas publié. Et donc tout le monde, un intellectuel africain aussi, Hervé dira, il peut passer 100 ans aux États-Unis, il ne sera jamais spécialiste des États-Unis, il ne sera jamais spécialiste de la France, etc. Mais si on vous invite, même en tant qu'Africain, même en tant qu'Indien, à être ce spécialiste d'un pays africain ou de l'Afrique, etc., mais dans la perspective souhaitée et dans une perspective où vous pouvez être, donc les médias peuvent vous inviter, etc., ça je le dirais même d'un écrivain africain, etc., et là il faudra se poser la question aussi, même, donc ça c'est, je crois que c'est un débat plutôt général, donc ce n'est pas question de race, d'où est-ce qu'on vient, mais il s'agit plutôt, je pense, à partir d'où et quel est le contenu de mon texte, de façon consciente et consciente. Et moi aussi, de façon inconsciente, ça existe, parce que j'ai grandi, ma bibliothèque est faite de ces universités dans lesquelles j'ai étudié, c'est-à-dire de cette pensée, si vous voulez, blanche entre guillemets, etc. Et donc, comment est-ce que je me découvre à l'intérieur de tout ça? Et c'est ça, je dis, c'est ça un des défis que nous avons dans la pensée postcoloniale.
Tout à fait d'accord avec Jean-Pierre, parce qu'au fond, Eric, et Jean-Pierre a très bien fait de le souligner, précisément, il peut arriver que nous-mêmes, Africains, il ne s'agit même pas d'une histoire de race. Et d'ailleurs, je dirais même, pour être un peu plus provocateur, qu'il y a tout un déploiement de discours du blanc sauveur qui sont articulés par des Africains.
C'est ça.
Simplement parce qu'ils sont en position d'extériorité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, parce qu'on est Africain, parce qu'on se fait recevoir un récit. Alors, des fois, on prend un discours qui n'est pas du tout différent du discours du grand blanc de Mandarin. Je prends un exemple au hasard. Donc, il ne s'agit pas en genre de race, d'origine, ou même de background culturel. C'est-à-dire que, il y a des gens aujourd'hui qui se renient littéralement, qui sont prêts à dire qu'ils ne sont pas d'où ils sont, parce qu'ils ont une certaine... Et je reviens à ce débat-là, littéraire, par exemple, je me souviens, la fameuse question de la littérature monde francophone. Je me souviens avoir posé une question à Eric, et en genre, j'espère que vous m'entendez. La question que j'ai posée à un écrivain africain, qui est un des ambassadeurs de cette littérature monde, c'était de savoir s'il pensait que l'écrivain africain qui publie aux éditions du Figuier à Bamako se reconnaît dans cette littérature monde. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à partir d'une certaine position de pouvoir, on est au Collège de France, on est aux États-Unis, on est, je ne sais pas, dans les académies russes, on peut, en tant qu'Africain, produire un discours qui est redondant avec le discours colonial. Ben, il ne s'agit pas de race du tout, c'est ce que je voulais ajouter.
Nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous, consacrée à l'inscription du génocide dans les pratiques discursives africaines. Un grand merci à mes invités, le professeur Hervé Tchoukam, le docteur Anjanson Daram et le professeur Jean-Pierre Karegeye. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique. Lionel Lunadia Gahima a facilité la mise en onde. Au micro, c'était Eric Manelakiza qui vous souhaite un excellent